Europe 1 Culture Média. Thomas Hill.
Bonjour à tous et bienvenue dans Culture Média. Alors oui, je sais, je vous avais dit, Philippe Vandel revient la semaine prochaine, mais j'avais pas précisé quel jour. Et comme vous pouvez le constater, ça n'est pas aujourd'hui, mais a priori, ce sera demain, ce qui m'arrange parce que j'ai un rendez-vous à Pôle emploi et je voudrais pas le louper. Alors, pour ce qui s'annonce comme mon dernier Culture Média, j'ai la chance d'avoir un sommaire de toute beauté à vous annoncer. Avec d'abord Louise Bernard qui va nous livrer, comme chaque jour, les dernières infos médias et les audiences du week-end dans son journal. Peut-être même les audiences d'hier, si jamais elles veulent bien tomber d'ici là. Vous aurez le droit, bien sûr, aux chroniques des deux meilleurs décortiqueurs d'images, Bruno Donnet à 9h44 et Jean-Luc Lemoine après 10h. Et puis dans l'info média du jour, on va se demander comment lutter contre la désinformation. Que faire face aux épidémies de fausses infos et à la défiance qui augmente envers les journalistes? Reporters sans frontières vient de publier un livre blanc avec 30 propositions faites suite à une consultation citoyenne. On va en parler avec Christophe Deloire, le directeur général d'RSF. Et puis nous avons la chance de recevoir ce matin l'une des grandes stars de cette rentrée, Florence Foresti, vient nous présenter ce matin sa série qui débarque enfin ce soir sur Canal+. Ça s'appelle Désordre et ça parle dans le désordre d'amour, de wifi, de bulldog, d'angoisse et de yoga aussi. On va démêler tout ça avec elle tout à l'heure. Enfin, dans la deuxième partie de cette émission, nous recevrons une conteuse, une rabbin, Delphine Horviller, qui nous présente son monologue contre l'identité. Ça s'appelle Il n'y a pas de hasard et c'est un texte absolument lumineux. Bref, je la sens bien cette émission, alors ne perdons pas de temps. Culture Média, c'est parti.
9h-11h, Europe 1 Culture Média.
Bonjour, bonjour Louise Bernard,
bonjour,
vous allez bien?
Bonjour Thomas, bah écoutez, ça irait mieux si les audiences d'hier soir étaient arrivées dans la boîte mail.
C'est toujours le petit pic de stress là, à 9h06.
Mais non, voilà, c'est ça. Alors, écoutez, on va faire celle du week-end déjà.
Voilà, mais d'abord le sommaire de votre journal des médias ce matin.
Mais oui, j'allais l'oublier tellement je suis perturbée. Des excuses, un rachat officiel, des suppressions de postes, des financements de bonnes idées et puis des journaux gratuits dans le métro et le RER.
Et alors donc, les audiences qu'ont regardé les Français ce week-end déjà?
Ils ont regardé, comme chaque week-end depuis la rentrée, la même chose. C'est-à-dire que les polars de France Télévisions ont cartonné, contrairement au divertissement de TF1, même s'il faut souligner que The Voice Kids remonte après une semaine compliquée. Et puis à noter que le jeu de Cyril Ferraud samedi soir sur France 2, 100% logique, gagne quelques téléspectateurs par rapport au lancement de la semaine dernière. Mmh. Et c'était déjà une bonne audience. Du côté de la deuxième partie de soirée, là aussi, il est intéressant de regarder les audiences de la 2, car Léa Salamé présentait la deuxième de Quelle Époque, bien suivie cette semaine encore, bien qu'en baisse, 940 000 téléspectateurs.
Et alors, pour les audiences d'hier, est-ce qu'elles ont fini par arriver ou pas?
J'ouvre le document en même temps que je vous parle. c'est France 3 qui est arrivée en tête avec les enquêtes de Vera, 3 360 000 téléspectateurs, 16,3. Eh bien, c'est encore... c'est similaire à la semaine dernière. Ça reste, la part de marché est très bonne. Deuxième, c'est le film Taxi 5 sur TF1, 2 800 000 téléspectateurs, 14,4%. De
ça,
part
ça
d'audience,
toujours,
ça, mais ça marche toujours, c'est bien pour ça qu'il y en a 5.
C'est ça.
Et puis troisième, c'est France 2 avec son film Charlie's Angels, 2 240 000 téléspectateurs, 11,4% de part d'audience. Donc vous voyez que TF1 et France 2 ont 400 000 téléspectateurs d'écart seulement.
Europe 1, le journal des médias.
Et on commence ce journal des médias avec les excuses de l'hebdomadaire Le Film Français.
Oui, suite à ça, une que vous avez peut-être vue circuler sur les réseaux sociaux. Alors, on y lit un titre, objectif reconquête, allusion au fait de devoir faire revenir du monde dans les salles de cinéma. Et puis, on y voit en photo le président de Pathé, Jérôme Sédoux, entouré d'acteurs du cinéma français, Pio Marmaille, Guillaume Canet, Vincent Cassel, François Civil, Pierre Ninet, Danny Boone.
Et il y a un petit problème là.
Ben oui, où sont les femmes, Thomas? Où sont les femmes? Pas sur cette une, c'est bien ce qui a irrité de nombreux internautes, des anonymes, mais pas que. La réalisatrice Audrey Diwan a par exemple tweeté « Si on vous gêne, n'hésitez pas à le dire » ou encore Alexandra Lamy « Pas de femmes, pas de diversité, la grande classe ». Il faut y voir de l'ironie, évidemment. Des indignations qui ont visiblement fait réaliser son erreur à l'hebdomadaire. Il s'est donc excusé pour ce choix, je cite, « malheureux et regrettable ». Et il ajoute « Cela prouve combien la vigilance doit être de mise à chaque instant pour que l'emporte le combat de la parité ». Donc on comprend à travers ce mea culpa que ce n'était certes pas intentionnel de zapper les femmes, nombreuses en plus dans le cinéma, qui sortent de nombreux films de qualité. mais aussi que ça signifie que personne du film français mais n'avait remarqué leur absence.
Mais même personne quand ils ont fait la photo, moi c'est ça qui m'étonne, c'est qu'il y a un moment, alors à moins qu'ils aient pris la photo chacun de leur côté.
Ah, ils ont bien dit que c'était pas un choix des acteurs. Ouais, c'est là-dessus où on a encore un petit doute.
Que tous ces acteurs soient réunis ensemble sur une même photo et que personne ne lève le petit doigt pour se dire tiens, il manque quand même peut-être un tout petit peu de féminité là-dedans, c'est très étonnant.
Personne n'a trouvé ça problématique, effectivement.
Bon, c'est désormais officiel, le groupe La Provence va être racheté par l'armateur CMA-CGM.
Le tribunal de commerce de Bobigny vient de valider l'opération. 81 millions d'euros pour racheter les journaux La Provence et Corse Matin. C'est donc l'épilogue, ça y est, de plusieurs mois de bataille dont je vous ai régulièrement parlé. Une bataille entre Xavier Niel et Rodolphe Saadé, patron de CMA-CGM, pour racheter les 89% de parts de Bernard Tapie. Alors, en réalité, le dossier s'était débloqué fin août. Je vous l'avais dit, on avait appris que Xavier Niel acceptait finalement de laisser Rodolphe Saadé s'emparer des parts. Et puis, ils avaient signé un accord qui prévoit notamment la création d'une nouvelle imprimerie commune dans le Var pour les journaux donc La Provence et Corse Matin. Et puis aussi celui de Xavier Niel, Nice Matin.
Nice Matin. À l'international maintenant, la BBC va supprimer près de 400 postes.
La BBC, c'est le service public britannique et elle doit faire des économies, beaucoup d'économies et continuer d'en faire hein, parce que ça fait plusieurs années qu'un plan est en cours. Et cette fois, ce sont les services internationaux qui sont touchés. La BBC en a 41. Elle est présente dans le monde entier. On estime d'ailleurs qu'elle touche 365 millions de personnes chaque semaine. C'est l'audience estimée. Oui, mais ce sera bientôt moins hein, car 382 postes du service international vont être supprimés et donc ça va conduire à la fermeture de radios en arabe, en perse, en chinois et à l'arrêt de certains programmes télé en Afrique et en Asie. D'après le communiqué de la BBC, aucun service étranger ne va pour autant totalement disparaître, mais la moitié d'entre eux travaillera uniquement pour les sites internet. Tout cela devrait quand même permettre à la BBC d'économiser 28,5 millions de livres par an, ça fait 31 millions d'euros. Pas mal. Sauf qu'en tout, c'est 500 millions de livres que la BBC doit économiser chaque année.
La situation est grave. Alors, dans le reste de l'actualité média, Google va offrir des financements à plusieurs médias français.
Car la firme américaine avait lancé des challenges de l'innovation. En fait, elle a choisi une quarantaine de médias européens sur plus de 600 candidatures. Des médias avec des rédactions de moins de 50 journalistes. Pour un montant de financement de 150 000 euros maximum. La France est le pays qui a le plus de médias sélectionnés, hein, 8. On peut citer notamment Les Jours, Combini, L'Humanité, Sopress. Qu'est-ce que Google va financer ? Eh bien, des projets jugés innovants. Par exemple, Combini va avoir recours à des techniques de jeux vidéo pour pouvoir toucher une audience plus large. Les Jours va proposer des cartographies et des visualisations de groupes d'influence pour enrichir l'investigation.
Et alors on termine ce journal avec le journal 20 minutes qui est désormais dans le métro et dans le RER aussi.
Mais si vous habitez à Paris en Ile-de-France et que vous vous déplacez en métro ou en RER, vous avez peut-être remarqué ce matin que le journal était distribué directement dans les stations. C'est le résultat d'un nouvel accord entre 20 minutes et la RATP, l'organisme qui gère le métro et le RER. Avant en fait 20 minutes était distribué dans les gares SNCF ou par des colporteurs. S'ajoutent désormais 108 stations de métro ou RER. C'est distribué en fait 20 minutes à 490 000 exemplaires. C'est gratuit, toujours, en région parisienne.
490 000 exemplaires, c'est énorme.
C'est énorme. Alors, 20 minutes encourage quand même à laisser, par exemple, son exemplaire sur le siège d'un métro. Par souci d'écologie, vous pouvez le récupérer. Ouais, ça fera peut-être le bonheur de votre voisin. 20 minutes, en fait, c'est le dernier quotidien gratuit. Métro et CNews ont disparu. D'ailleurs, c'est CNews qui était distribué avant directement dans les métros. 20 minutes prend donc le relais et CNews s'est arrêté fin novembre 2021.
On parle de CNews en version papier.
Oui,
la télé existe
encore.
Oui,
alors ça s'appelait Direct Matin, même c'était un autre nom avant Direct
Matin. CNews Direct.
Direct Plus, je sais plus ce que c'était.
Très bien, merci beaucoup Louise Bernard pour toutes ces infos qui sont à retrouver dans la newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr. À demain Louise pour un nouveau journal des médias.
Bah, je vous retrouve pas demain, je vous retrouve pour le journal mais à
oui,
bientôt
demain
Thomas.
Ce sera Philippe bien
avec
sûr,
notre Philippe.
J'oubliais déjà. Dans un instant dans notre info média du jour, on va parler de désinformation. Que faire contre ce fléau ? Reporters sans frontières lance 30 propositions. On en parle avec le patron d'RSF Christophe Deloire. À tout de suite sur Europe 1.
9h 11h Europe 1 Culture Média. Thomas Hill.
Comment lutter contre la désinformation ? Reporters sans frontières vient de publier un livre blanc avec 30 propositions pour le droit à l'info. Selon une étude publiée en 2003 par l'université de Berkeley, l'information produite au niveau mondial aurait presque doublé entre les années 1999 et 2002. Et cette augmentation en cache une autre, celle de la défiance grandissante des citoyens envers les médias. Alors que faire pour que ça change ? Reporters sans frontières a sillonné la France à la rencontre des citoyens pour faire émerger des solutions pour les les détailler, nous recevons ce matin le secrétaire général de Reporters sans frontières, Christophe Deloire. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors donc au printemps dernier, un bus RSF a sillonné la France pour recueillir les propositions des citoyens sur l'information, une sorte de grand débat citoyen. Vous étiez un peu Emmanuel Macron finalement.
Pas tout à fait.
L'idée c'était de pas rester dans un entre-soi de journaliste en fait, c'est ça?
Alors Reporters sans frontières, comme vous le savez peut-être, c'est une organisation qui travaille d'abord à l'étranger, qui travaille en Afghanistan, aujourd'hui en Ukraine, où on a deux centres, qui a des bureaux dans 14 villes dans le monde, bref, qui est très tourné vers l'étranger, ouais. Qui, lorsque des enjeux majeurs sont en jeu en France, y travaille aussi. Il y avait une chose qu'on n'avait jamais faite, c'était effectivement faire un tour de France, aller dans des grandes villes, dans des métropoles régionales, mais aussi dans des petites villes, dans des villages, pour discuter des questions de droit à l'information, dans un moment où le champ de l'information est complètement bouleversé. Les journalistes ont perdu le monopole, ils ne le retrouveront jamais, ça n'est peut-être pas souhaitable. Il y a ce chaos informationnel sur les réseaux sociaux, tous les contenus sont en concurrence directe, de manière à la fois avec une espèce de profusion, mais énorme, aussi de mélange des genres, parfois de corruption, de malveillance, aussi de bienveillance et d'intelligence. Et bref, on est à un moment où, y compris nos cadres juridiques, ce qui a été établi par le Parlement au fil de l'histoire de notre démocratie, ne tient plus. On a besoin de le reconstruire, et pour le reconstruire, autant le faire avec les citoyens. C'était ça l'objectif de cette tournée du bus.
Et un petit mot de la méthode, parce qu'elle est assez originale. Vous avez utilisé du design prospectif. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Expliquez-moi.
L'idée, c'est que pour être créatif sur la situation présente, pour essayer de faire émerger des idées, mieux vaut ne pas rester dans son confort de pensée et finalement rester sur des vieux clivages. On sait que les médias sont largement critiqués, que les journalistes ne sont pas très hauts dans les sondages de confiance. Et donc on s'est dit, plutôt que de rester dans une situation où on a des citoyens qui expriment leur acrimonie, leur critique parfois très légitime, de l'autre côté, des journalistes qui se défendent un peu toujours de la même manière, essayons de sortir tous de notre zone de confort. Et donc, mettons-nous dans la même salle, citoyens, journalistes ou non, travaillons sur des scénarios futuristes, qui semblent irréalistes aujourd'hui, mais dont parfois les grandes sociétés technologiques ne sont pas très loin, et disons ce que nous voulons faire plutôt que ce que nous critiquons.
Un exemple, vous avez imaginé par exemple des lunettes anti-désinformation qui permettraient de discerner le vrai du faux. Et le fait d'imaginer ça, et ben ça permet de se diriger vers ce point, vers ce futur souhaitable ou pas souhaitable d'ailleurs.
Bah, par exemple, on peut se dire mais des lunettes qui distinguent le vrai du faux, c'est tellement aberrant comme scénario. Mais est-ce que ça n'est pas ce que prétendent faire parfois nos algorithmes? Une pilule qui permet d'ingérer plus d'informations. Est-ce que finalement, ça n'est pas ce que les technologies ont réussi à faire? On avait un autre scénario prospectif qui était sur est-ce qu'il faut un dispositif pour réduire notre consommation de contenu au strict minimum, un peu comme dans la logique de réduction des émissions de carbone, de réduction du contenu, et qu'est-ce qu'on garderait? Bref, ça permet de se poser des questions assez fondamentales sur une base assez ludique, et ces assemblées citoyennes que nous avons organisées partout en France, elles ont été très productives.
Et alors vous avez tiré justement de ces discussions 30 propositions. La première suggère de constitutionnaliser le droit à l'information. À quoi ça pourrait servir?
Alors d'abord, je rassure vos auditeurs, ça n'est pas la plus concrète, celle-là.
Non, il y en a d'autres, on va y venir.
On est dans un pays où aujourd'hui, le pluralisme est un objectif à valeur constitutionnelle. Bon, je ne vais pas entrer dans un débat de juriste, mais nous avons besoin, si nous voulons demain un cadre juridique qui nous permette d'exercer nos libertés démocratiques, collectives, qui nous permette aussi d'exercer nos droits individuels, droit à la santé, mais aussi droit de consommateur, on a besoin d'informations fiables. Et donc on a besoin de dépasser la notion classique de la liberté de la presse. Parce que cette notion de liberté de la presse, qui est toujours très importante et qui est violée dans de très nombreux pays, de manière parfois extrêmement grave, elle a trait aux journalistes. Mais comme aujourd'hui, l'ensemble des contenus, ça n'est plus que le journalisme, ça ne suffit pas. Donc il faut développer nouvelles visions, et notamment autour de cette question du droit à l'information, qui est un droit de tous les citoyens, qui n'est pas un privilège des journalistes, qui n'est même pas un droit des journalistes, qui est notre droit. On a un droit à revendiquer vis-à-vis de ceux qui envoient des contenus. Si vous diffusez ce qu'on appelle des infodémies, des épidémies de fausses informations, finalement c'est ma vie, c'est ma santé que vous mettez en danger. Et donc j'ai quelque chose à revendiquer vis-à-vis de vous sur la question de la fiabilité de l'information, de son indépendance,
de son pluralisme.
C'est
aussi la santé de la démocratie aussi. Donc
ça vaut. J'ai pris cet exemple sur notre santé et notre vie, mais j'aurais pu le prendre sur nous en tant que citoyens, nous en tant qu'acteurs économiques et sociaux, que consommateurs, etc.
Et alors vous voulez aussi justement faire de la lutte contre la désinformation la grande cause nationale de 2023, comme l'étaient ces dernières années, par exemple, les violences faites aux femmes ou la lecture. Qui décide de ça? C'est le président de la République, non ?
C'est le président de la République ou la première ministre. C'est des enjeux sur lesquels, clairement, on est en retard d'une guerre. C'est pas tout à fait l'expression, même si finalement on voit que les campagnes de désinformation peuvent mener à des conflits réels. Bien sûr. On l'a vu avec l'attaque russe en Ukraine. Mais avant, on avait finalement un cadre juridique qui était national, parce que notre débat public, il était national. Aujourd'hui, on a un espace public, le lieu où on discute, notre place du village, elle est mondiale. C'est comme si on avait une mondialisation absolument non régulée.
C'est ça.
On sait ce que ça peut faire, une mondialisation non régulée sur des questions économiques, industrielles. L'effet, il peut être le même, voire pire, sur les questions démocratiques.
Donc il est temps de réguler les choses. Alors, les Français livrent pas mal de critiques aussi sur les médias. Ils critiquent le traitement qu'ils jugent superficiel de l'information. Ils sont notamment assez durs envers les chaînes d'infos, qu'ils regardent beaucoup par ailleurs. Donc ça, c'est toute la contradiction entre ce qu'on peut dire dans ce genre de réunion et ce qu'on peut faire à la maison.
Mais nous, on a perçu au cours de notre tournée en bus dans les villes et villages qu'il y avait trois grandes demandes. Un, on est aujourd'hui face à une profusion d'informations, on n'arrive plus à se repérer.
Ouais.
Une profusion de contenu sur les réseaux sociaux.
On en parlait la semaine dernière de cette fatigue informationnelle.
Hein, absolument, ça renvoie à ce sujet-là. Deux, nous avons une exigence, nous Français, en termes d'indépendance de l'information, d'intégrité de l'information et d'indépendance des médias. Trois, nous voulons un pluralisme plus grand. Nous avons une exigence de pluralisme.
Au sein même des médias.
On ne veut pas simplement que vous nous disiez des choses vraies, on veut que vous nous racontiez toute la vérité, mais sous ces différents aspects.
Mais ils reconnaissent que le pluralisme existe, c'est-à-dire qu'on a plein de médias différents, mais ce qui les gêne visiblement, en tout cas c'est ce qui ressort de votre étude, c'est le manque de pluralisme au sein même des médias.
Absolument, il y a deux types de pluralisme. Il y a le pluralisme entre les médias, et il y a le pluralisme à l'intérieur, qu'on appelle pluralisme interne, et qui est extrêmement important parce que quand on sort de ce pluralisme-là, ce qu'ont fait les États-Unis avec des médias ultra polarisés, d'abord Fox News, puis ensuite à l'autre bout du spectre des médias qui eux-mêmes se sont polarisés, ça fait à la fin des gens qui n'ont plus envie de vivre dans le même pays. Est-ce que c'est de ça que nous voulons ? Si nous ne le voulons pas, alors il faut poser des principes démocratiques. C'est l'un des aspects de ce travail.
Le traitement de l'info par les grands médias est jugé trop sensationnel, parfois déconnecté des vraies préoccupations aussi des Français. Alors, vous avez une solution face à cela. Vous voulez notamment décentraliser l'information. Pour prendre un exemple concret, le fait que le 19-20 de France 3 ne soit plus du tout national, mais uniquement local à partir de septembre prochain, ça vous semble une bonne chose ? Ça va dans le bon sens, hein ?
Moi, je n'ai pas de commentaire sur ce que fait France Télévisions là-dessus. De manière plus générale, la BBC, par exemple, en Grande-Bretagne, tirant les leçons des difficultés politiques du Royaume-Uni, a décidé de décentraliser, de déconcentrer une bonne partie de ses services. Il y a très clairement, lorsqu'on parcourt la France, la perception qu'une vision parisienne est trop prédominante, que ça empêche de percevoir certains aspects de la vie en société, certains des problèmes, et que de ce point de vue-là, il y a ce besoin de décentralisation, comme il y a besoin de pôles d'excellence régionaux interinformationnels.
Et dernière petite chose, vous suggérez aussi que le 3 mai pourrait être créé une fête des médias à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse. Ça consisterait en quoi, ça ?
Oh ben, ça sera l'équivalent de la nuit blanche, de la fête de la musique.
Ouais. On
en
ouvre
fait, il
ne
faut pas
médias,
simplement
le monde,
que les journalistes battent leur coulpe, parce qu'au fond, ce dont on se rend compte, et ça, c'est ça a de quoi rendre optimiste, c'est que les gens, lorsqu'ils critiquent les journalistes, les médias, c'est au nom d'un idéal de journalisme. Ouais. Bref, c'est un amour déçu.
Merci beaucoup Christophe Deloire. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de Reporters sans frontières et que vous venez donc de publier un livre blanc de 30 propositions pour améliorer les relations des citoyens avec les médias. On ne peut que vous souhaiter bon courage dans cette mission. Dans deux minutes, on a la chance de recevoir Florence Foresti qui vient nous présenter sa série Désordre qui est diffusée ce soir sur Canal+. Ne bougez pas, vous êtes bien sur Europe 1.
9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Thomas Hill.
Culture Média continue et nous recevons ce matin dans cette émission une femme qui a concentré tous ses talents d'autrice, d'actrice, de réalisatrice et même de productrice pour nous offrir une série qui lui ressemble vraiment. Bonjour Florence Foresti.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Comment ça va ce matin ?
Super.
Parce que là, ça y est, là, c'est aujourd'hui.
C'est ce soir.
Les deux premiers épisodes de votre série Désordre seront diffusés donc ce soir, 21h sur Canal. Ça fait combien de temps que vous êtes sur ce dossier ?
J'ai envie de dire une vie.
Ben ouais.
Mais c'est trop trop facile de dire ça. Alors concrètement, je pense 5-6 ans quand même.
6 ans,
ouais. Avec des interruptions évidemment, parce que les projets, parfois on les laisse tomber, on n'y croit plus, après on y recroit, après on en rêve, après on se dit tout est nul, on fout à la poubelle, après on va chercher dans la poubelle pour essayer de s'y remettre. Donc,
ça veut
voilà.
dire que vous aviez tout écrit déjà non. il y a quelques années et vous avez...
C'est vrai qu'on avait quand même, ouais, je crois qu'on avait écrit plus ou moins 6 épisodes en 2016 et puis je trouvais ça pas assez bien. Et puis après, j'avais envie de remonter sur scène, donc Epilogue ouais. est venu un peu déranger mon planning idéal. Mais
faire une série, en tout cas, ça faisait très longtemps que vous vouliez faire ça.
Oui, très très longtemps, parce que j'adore les séries depuis que je suis jeune. Et puis et voilà, donc j'avais envie... évidemment, de me frotter à l'exercice. Ouais. Ouais.
Et c'est la première série que vous écrivez, mais c'est la première série tout court dans laquelle oui. vous jouez. Hein.
Oui,
vous
oui,
avez jamais
sûr.
Vu dans une série.
Non.
Alors, je ne sais pas, Florence Foresti, si vous avez déjà entendu la bande-annonce de cette formidable série qui s'appelle Désordre.
Je l'ai entendu un bon milliard de fois voilà, au montage.
Une fois de plus, écoutez.
Et sur scène, dans 2 mois, il faut qu'on lance la promo, là.
Que tu parles.
Mais écoute, Flo, tu nous as parlé de ça hier. Tu as dit, je rêve de faire...
Un Sex and the City à la française. Ah
avancer là. Je t'ai foutu la paix toute la semaine dernière avec ta fille. Là, ça a eu.
Ah, je crois que j'ai plus rien à dire.
Ça doit être fou d'avoir du succès comme ça.
La célébrité, je veux dire, c'est pas tout le temps rose, quoi.
La crème anti-hémorroïdes.
C'est pour mes yeux.
Il y a des moments, c'est très très dur à vivre. Hein.
Comme la chimio.
Moins.
Tu veux parler de quoi? Je parle de toi.
Florence Foresti, humoriste.
Je connais pas. J'ai jamais entendu parler.
Il nous faudrait votre date de naissance.
45 ans.
On dirait un gros sac.
Merci. Bon, 20 sous antidépresseurs.
C'est pas mal, t'en penses quoi, toi, Bernie?
Oh, bah, moi, je trouve que c'est de la merde. C'est de la merde. De toute façon, tout ce que vous faites, c'est de la merde.
Quoi?
J'annule.
Oui.
Ça fait très bizarre sur les images.
Ah, bah, sur les images, on se demande qui ronfle.
Qu'est-ce
bon,
que
c'est bien le bulldog qui ronfle à un
c'est
moment.
C'est ça. Il y a une bête, hein, ouais. y a une bête dans ouais. cette histoire. Alors, c'est ce qu'on appelle dans le langage professionnel de l'autofiction.
Oui.
Un peu comme dans vos spectacles. Hein. Finalement, vous êtes votre source d'inspiration majeure, Florence Foresti.
Ouais. Oui.
Parce que vous dites qu'il n'y a rien de plus drôle que la vraie vie.
Oui, je trouve que la vraie vie nous offre suffisamment de situations de comédie. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, dans mon écriture, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à me servir de mes expériences pour essayer de trouver un écho chez d'autres personnes. Moi, ça me fait du bien. Et l'autofiction, c'est vrai que c'est un genre qui se marie bien avec le one-man show. On le voit bien, je suis absolument pas la première et je serai pas la dernière à utiliser ce genre.
Vous aviez des modèles ?
Oh bah bien sûr, j'étais même écrasée par le poids de mes modèles.
Ah
c'est
ouais.
ça aussi qui a retardé la production de cette série, parce que j'avais une telle admiration pour Larry David, Louis C.K., Seinfeld,
ouais.
qui se sont évidemment frottés avec brio à cet exercice, que j'avais un peu un complexe d'infériorité. C'est normal quand on a des idoles d'hésiter à y aller, quoi. Puis après, un jour, je me suis dit, bon, voilà, faut y aller humblement, faut le faire, surtout parce que je vivais très mal le fait de reculer, quoi, et de pas entrer
ouais.
en production. C'est très triste quand un projet se réalise pas. Donc j'y suis allée avec avec beaucoup d'humilité et beaucoup de joie. C'était une expérience que j'ai adorée. Et on est plutôt content du résultat. On est même très, très content du résultat.
Avec des petites choses que vous auriez encore aimé perfectionner,
bien
vous
sûr.
Avez des regrets encore.
Bien sûr, mais en fait, la grande leçon que j'ai dû apprendre pour réussir à faire cette série, c'est me dire bon, un script n'est jamais parfait comme un spectacle,
ouais,
en fait. Parce
ça.
Que moi, j'attendais que mon script soit le script parfait, bien sûr, en toute modestie, pour me mettre en marche. Et en fait, j'ai eu la chance de rencontrer des producteurs qui n'étaient pas à leur première. Dont c'était pas la première production, qui m'ont dit mais non, en fait, tu sais, on n'est jamais. Entièrement satisfait d'un script avant de le mettre en production. Il faut y aller. Un jour, il faut y aller, quoi. Et ça m'a beaucoup aidé.
Ouais.
À me dire, ok, on y va.
Et à l'arrivée, c'est très, très réussi. Alors, dans autofiction, il y a fiction. Hein, donc, c'est pas un documentaire
pas du
sur
tout.
La vie de Florence Foresti.
Ah hein. Ben non, ça serait chiant, ça.
Ouais, c'est ça. Hein.
Ça serait chiant. Donc, j'essaie quand même de le rendre divertissant. Moi, mon rôle, c'est d'essayer de faire rire les gens. Et donc, au maximum, on a essayé, bien sûr, d'optimiser ma vraie vie, mais de la rendre... distrayante.
C'est ça, mais il y a quand même beaucoup de vous dedans. L'appart, vous y avez vraiment vécu. L'appart qu'on voit dans cette série, le bulldog, il est identique au vôtre. C'est son neveu, je crois.
C'est son neveu.
C'est ça. Et votre co-auteur, il bosse vraiment en slip.
Oui, oui, bah, non, mais il y a beaucoup de vrais, évidemment. C'est très inspiré de faits réels, mais comme je vous dis, évidemment, rendu un peu plus accessible, un peu plus drôle, j'espère, pour le grand public, bien sûr.
Et votre femme de ménage aussi, c'est votre vraie femme de ménage, parce que c'est une excellente actrice.
Enfin, ah, vous trouvez, cas, elle est chouette.
Ah, mais
hein.
Moi, j'ai adoré ses petits rires. C'est quelque chose de. Bah, c'est génial. Ouais, ça, elle se fout de votre gueule en permanence.
Tout le temps. Tout le temps, parce que pour elle, je ne suis pas une star, je suis une feignasse qui ne fait pas son lit. C'est tout. Donc, en fait on a essayé de caster pour trouver. Lucie, et puis finalement, je lui ai proposé et elle a gentiment accepté de se prêter au jeu alors qu'elle est très timide et tout, mais elle est super. Et...
Elle est comme ça dans la vie ?
Oui, elle est comme ça dans la vie. Bien sûr, tous les personnages sont inspirés par mon vrai entourage, quoi. C'est ça qui est génial.
Ouais. Et puis alors, celle aussi qui s'occupe de vous, votre agent, qui est une actrice exceptionnelle.
Béatrice Faquet, elle est exceptionnelle.
Exceptionnelle. Ouais. Et vraiment, c'est un bonheur de la
voir. C'est la chose dont on est le plus fier dans cette série, finalement, c'est le casting. En fait, on s'est vraiment appliqué à aller chercher des gens de tous horizons, beaucoup de gens de scène, parce que j'adore le café-théâtre, on le sait, j'adore le théâtre, j'adore les comédiens. Et on a vraiment essayé d'aller chercher des vrais caractères, des vraies figures. Et je suis très, très, très heureuse d'être si bien entourée.
Et puis, vous nous donnez à voir le revers aussi de votre célébrité, hein, à commencer par le fait de jamais pouvoir être incognito, nulle part, de devoir toujours être disponible pour des fans qui sont parfois bien lourds.
Oui, bah écoutez, c'était quand même plus marrant de me voir dérangée dans la rue à des moments où il fallait pas, plutôt que la gentillesse dont me font part la plupart des gens. Enfin, c'est
oui,
vrai que c'est plutôt agréable, mais là, on a évidemment appuyé là où ça fait mal.
C'est vrai que c'est pesant pour vous, par moment, de ne pas pouvoir sortir tranquillement dans la
bizarrement,
rue,
bizarrement, plus du tout, en fait. Bizarrement, je ne sais pas si c'est thérapeutique, si c'est la série qui m'a réconciliée avec ça, mais en fait, maintenant, j'ai beaucoup de gratitude pour ce qui m'arrive et j'accepte avec beaucoup de bonheur tout d'être dérangée. En fait, ça fait partie du jeu et c'est pas très grave par rapport à tout l'amour qu'on reçoit, c'est un bonheur.
Et puis alors, il y a beaucoup d'autres choses moins légères dans cette série, mais ça, le gros dossier, je l'ai gardé pour la deuxième partie de notre entretien. Allongez-vous, Madame Foresti,
oui,
on se retrouve
fait,
dans un instant. A tout de suite sur
Merci,
Europe 1.
Docteur.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Thomas Hill.
Quel bonheur d'être avec Florence Foresti ce matin dans
Merci.
Culture Média, à quelques heures de la révélation au monde de sa série Désordre. Je fais monter la pression là un petit peu.
J'étais pas stressée, vous commencez à me stresser.
C'est vraiment mon objectif ce matin. On en reparle dans un instant, mais d'abord il est 9h44 et c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno.
Bonjour Thomas.
Alors tous les jours vous analysez ici les mécaniques médiatiques et ce matin vous vouliez revenir sur un étonnant phénomène qui a conduit un très grand nombre de médias dans la ville de Nantes la semaine dernière.
Oui, c'est l'histoire d'un énorme emballement médiatique que je vais vous raconter ce matin. Une affaire de télescopage entre deux informations qui a créé un effet boule de neige hautement spectaculaire. Je vous explique. Il y a 10 jours, le samedi 24 septembre, un fait divers tragique s'est déroulé à Nantes.
Vers 5h du matin, une femme de 40 ans a été victime d'un viol collectif en pleine rue.
Une femme a été violée par deux hommes d'origine soudanaise. Et comme BFM TV, que vous venez d'entendre, tous les médias ont donc relayé cette information. Seulement voilà, la veille de ce drame, le vendredi, le journal Le Figaro avait publié un classement. Un classement des villes les plus dangereuses du monde dans lequel, devinez quoi, Nantes apparaissait comme encore plus infréquentable que Bogota en Colombie. Un viol plus un classement flippant, il n'en fallait pas davantage pour passionner les journalistes qui sont allés dardard en nombre dans la 6e ville de France tenter de comprendre et surtout d'illustrer le phénomène.
Passé 22h, j'évite de sortir toute seule le soir sur Nantes, quoi.
RMC a donc tendu son micro à une femme qu'elle a croisée en plein centre-ville lundi dernier. Gilles Boulot a mis la question au cœur de sa grand-messe du 20h mardi sur TF1.
Y a-t-il une recrudescence de la violence à Nantes ?
Et BFM TV a choisi de consacrer un long débat au fameux classement publié par Le Figaro.
On va parler de la ville de Nantes qui dégringole dans un classement qui classe les villes les plus sûres du monde. Elle se positionne même comme la pire ville française. Les commerçants sont en colère.
Alors il faut s'arrêter un petit instant, Thomas, sur ce classement hautement sensationnel. Car c'est bien sa publication conjointe au viol qui a mis le feu aux poudres médiatiques et qui a suscité le vif intérêt de très nombreux médias qui, comme BFM TV, l'ont donc pris pour argent comptant.
Il y a un indice de sécurité en France, donc là on est sur le sentiment d'insécurité et Nantes, effectivement, dégringole.
En dessous de Marseille.
En dessous de Marseille et de Paris, donc il y a visiblement un problème à Nantes.
Il faut s'arrêter sur ce classement, car ceux qui l'ont repris et largement commenté ont oublié de procéder à un petit détail. Une petite vérification Et c'est couillon parce que s'ils avaient pris le temps de le faire, nos confrères se seraient aperçus que ce classement était en vérité une gigantesque fumisterie. Figurez-vous que je suis allé regarder d'un peu plus près la source et surtout la méthodologie. Alors, ce classement a été réalisé par un obscur site internet qui s'appelle Numbeo et qui est enregistré en Serbie. Et pour le faire, les champions de l'information recueillent des votes spontanément enregistrés par des internautes dont personne ne vérifie qui ils sont, d'où ils parlent, ni même s'ils ont déjà mis une seule fois dans leur vie les pieds dans la ville à laquelle ils ont attribué une note. Aucune vérification n'est faite, ce qui veut dire que quelqu'un, un opposant politique par exemple, peut parfaitement voter autant de fois qu'il le désire. Et enfin, le classement est basé sur un tout petit nombre de voix. Nantes par exemple n'a enregistré que 452 votes négatifs. Mais comme Bogota en a eu 9 de moins, 443, eh bien Nantes s'est retrouvée moins bien classée que la capitale mondiale du trafic de drogue. Pas grave. Sur CNews, par exemple, Pascal Praud y a trouvé une source d'inspiration monumentale pour son éditorial de mardi dernier.
La ville de Nantes illustre par l'exemple 30 ans de faillite de l'État, 30 ans d'impéritie de la municipalité.
L'avocat Gilles William Golnadel, un prétexte pour son analyse un brin expéditive de vendredi.
L'insécurité à Nantes, comme l'insécurité à Rouen, que je connais bien, suit servilement la courbe de l'immigration. Tout le reste, c'est de la littérature.
Et Éric Zemmour, un motif pour nous apprendre sur BFM TV qu'il connaissait qui ? Des pauvres gens qui ont le malheur de vivre où ?
À Nantes, je peux vous dire que moi, je connais beaucoup de gens qui habitent à Nantes. Je peux vous dire que c'est devenu terrifiant.
Voilà, alors rassurez-vous Thomas, la plupart des journalistes sont tout de même allés vérifier les chiffres, les vrais, pas ceux du site serbe, mais ceux fournis par la préfecture, TF1, l'a fait et nous a appris une chose étonnante.
À Nantes, ces 5 dernières années, les coups et blessures volontaires ont augmenté de 17%. C'est bien en dessous de la moyenne nationale, 30%.
Comme BFM TV, qui a relayé cet autre indicateur.
Et puis les violences physiques crapuleuses sont aussi en baisse, elles baissent de 12,7%.
Néanmoins, même ceux qui nous ont révélé que les chiffres de l'insécurité étaient à Nantes équivalents à peu près à ceux de la moyenne des grandes villes françaises ont fait le déplacement dans l'Ouest pour aller prendre le pouls du fameux sentiment d'insécurité où l'on comprend, Thomas, que résister à l'emballement est une bien périlleuse mission médiatique.
Et pour résider pas loin de Nantes à Angers, je peux témoigner du fait que Nantes est aussi une ville très jolie et très agréable à vivre. Merci Bruno Donnet d'avoir été avec nous ce matin. C'est bon ça?
Ah bah ça c'est bon, ah, ça on s'en lasse pas.
Jocelyn Brown, Somebody Else Guy. Je l'ai bien dit. Oui. Ça fait partie de l'excellente bande originale de la série Désordre de Florence Foresti, qui est notre invitée ce matin. Alors, à un moment dans la série, vous passez un casting pour l'immense Ricky Gervais.
Qui n'est pas là, hein, je vous le dis.
Non, qui n'est pas là, malheureusement.
Je ne fais pas de faux buzz. Hein.
Mais qui est l'acteur, co-créateur de The Office, pour ceux qui ne connaissent pas. Et moi, j'ai vu un peu de lui dans votre série, parce qu'on retrouve déjà le même plaisir à l'autodérision, à l'auto-flagellation même, avec des scènes parfois gênantes, comme ce moment, par exemple, où vous êtes à la pharmacie pour acheter des couches pour adultes et qu'il y a un jeune beau gosse qui arrive juste à côté de vous.
Sinon, j'ai ça, Florence. Ça, c'est encore mieux, c'est le modèle pull-up, c'est intégré directement dans la culotte.
Ouais, ouais, hein, je vois. Ouais, 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 ça a l'air super, mais c'est pas pour moi, donc on va rester avec ça.
Ah non, mais y a pas de honte. Hein.
Non, non, mais...
Ma mère a le même problème, c'est l'âge.
C'est l'âge ? Je te mets un sac ?
Ouais, s'il te plaît, ouais, c'est mieux.
C'est pour une amie, en fait. Mmh. C'est pour une amie.
Ok.
Enfin, une grosse, une vieille amie. Mmh. Merci. Tu mets sur ma note ?
Ouais. Ah, Florence,
oui,
bouge pas, on a reçu ta commande. Ah. Ta crème anti-hémorroïde, ça va te soulager, ça.
Non, mais c'est pas, ça va pas me soulager, c'est pour mes yeux, ça. C'est, tu sais, c'est le truc que je t'ai dit. Enfin, c'est les actrices qui font ça qui m'ont dit, c'est pour les rides.
Oui.
Enfin, les rides, les yeux.
Oui.
Merci en tout cas.
C'est vrai que ça marche pour les yeux, hein, cela dit,
il paraît. Il paraît, faudrait que je réessaye. Mais
Alors, il y a cette autodérision qu'on retrouve donc chez Ricky Gervais, mais il y a aussi ce numéro d'équilibriste que vous nous livrez entre la légèreté et la gravité. Ça aussi, il le fait beaucoup. Et quelque chose qu'on ne voit pas d'ailleurs dans vos spectacles. Vous ne laissez pas aller à cette tristesse quelque part dans vos spectacles.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que la série m'a permis d'aller chercher d'autres, d'aller travailler d'autres émotions et d'aller parler d'autres sujets. Surtout parce que je trouve quand même que sur scène, enfin en ce qui me concerne, Sur scène, j'ai plus l'impression de devoir faire rire tout le temps. Je suis mon... Je sors mon clown, on va dire. Dans une série, on a quand même plus l'occasion voilà, d'aller explorer des sentiments plus ambigus, des sensations plus complexes et plus subtiles. Donc c'était le terrain idéal pour moi de traiter de sujets qui n'ont pas leur place sur scène avec moi, en tout cas.
Avec des sujets et des moments qui sont parfois très durs. Hein. Là, on en vient au gros dossier. Hein. C'est que vous osez parler de vos troubles, de l'anxiété, de votre peur panique de la mort, du désordre en fait, qui vous habite par moments. Et là aussi, vous allez loin avec l'envie peut-être de déculpabiliser les gens. C'est ça l'idée derrière ?
Oui. L'idée, c'était d'essayer de parler avec humour ou en tout cas avec légèreté de sujets un peu plus graves. Il n'y a pas que ça, on parle aussi d'avortement, on parle aussi dans la série, on parle aussi des effets secondaires, des antidépresseurs, ouais. Qui sont bon, parfois assez amusants, malheureusement. Mais, oui, évidemment que l'idée, c'est de pouvoir dédramatiser un sujet et puis un trouble qui est très répandu, finalement, dans nos sociétés occidentales. Ouais.
Et de ne pas en avoir honte, en tout cas, parce que c'est ce qui vous est arrivé, vous. Vous en avez eu honte, parfois ? Vous avez cherché à le cacher à une
époque. C'est un grand mot, mais d'abord, c'est très handicapant. Ça peut plonger en dépression. Et la dépression, c'est dangereux parce qu'on le sait que ça mène au suicide si on ne sait pas soigner. J'en avais pas honte, j'en souffrais énormément. Mmh. Et puis, je suis pas à l'abri. Enfin, je suis pas totalement guérie, mais en tout cas, c'est une maladie grave. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est une maladie grave et qui mérite d'être prise au sérieux et qui mérite d'être traitée. Voilà, parce que souvent, les gens rechignent. Beaucoup à se soigner, voilà.
Et c'est un désordre qui, chez vous, se manifeste surtout entre deux spectacles, dans les moments peut-être d'oisiveté ou de oisiveté création,
oui.
C'est ça hein.
Oui, puis clairement, moi, la scène, c'est vraiment le seul endroit où j'ai pas peur, bizarrement. Tout le monde pense que je suis très traqueuse, j'ai très peur, mais en fait, sur scène, je me sens en sécurité, en fait,
donc
bizarrement.
Donc là, il y a zéro peur, y a tout ça, ça
c'est
ça
une autre
disparaît.
Forme de peur, c'est une envie de performer, d'assurer, mais j'ai pas la peur que je peux ressentir dans la vraie vie, ouais.
Est-ce qu'il ne faudrait pas envisager de mettre un public dans votre appart ?
Mais je crois. Mais c'est déjà le cas. C'est déjà le cas.
Non, mais c'est vrai, c'est assez étonnant.
Je loue une trentaine de personnes chaque jour, au petit-déj, et puis reste toute la journée.
Et alors, l'inspiration, visiblement, vous l'avez trouvée, hein, parce que vous êtes à nouveau sur scène pour votre spectacle Boys, 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 qui a démarré au Théâtre Marigny. J'en parle, mais alors, il n'y a plus une place à vendre. Hein.
Oui.
Les prochaines, c'est pour décembre 2023.
Oui, à l'Olympia, 23. Oui.
À l'Olympia, c'est des dates que vous avez rajoutées,
oui, qu'on a rajouté parce que Marigny était complet, mais il y a une tournée dans toute la France surtout.
D'accord, vous allez aller partout en France.
Oui, bien sûr.
Et un spectacle qui, dites-vous, est une ode au phallus. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Tout à fait. évidemment, comme le titre ne fait pas de mystère, hein, je parle beaucoup de masculinité, je parle beaucoup des hommes. J'avais envie de me ranger un peu de leur côté. Et puis évidemment, ça me permet d'explorer tout un panel d'autres situations. Mais vous
tentez un peu de redorer notre blason, c'est ça ?
Oui,
c'est
je sympa, pense que ça. Vous avez besoin de moi. J'ai trouvé que vous aviez besoin de moi et donc j'ai volé à votre secours. Non, j'avais envie de remettre un peu de nuance dans le débat et j'avais envie de remettre l'amour au cœur du débat surtout.
Ouais.
L'amour que j'ai des hommes, l'amour tout simplement parce que je trouve qu'on n'en parle plus beaucoup, qu'on se focalise beaucoup sur quelques dérives et on oublie un peu de parler de l'amour qu'il y a entre nous tous.
Et vous êtes pourtant, et vous êtes une féministe,
oui.
Une féministe
de
qui,
la
aime,
première
les,
heure,
qui
oui.
aime les hommes, c'est ça ce que vous voulez dire en fait ?
Oui, mais je pense que toutes les féministes aiment les hommes, après ça s'exprime différemment,
mais vous avez
en tout cas je vois pas
encore
le féminisme empêcherait d'aimer les hommes, au contraire,
ça, ouais.
Bien au contraire.
Et vous avez l'impression que parfois on va trop loin aujourd'hui ?
Non, je pense que chacun se construit comme il veut, comme il peut. Moi, je livre ma vision, mais surtout je livre une vision, j'espère, amusante. Enfin, moi je suis là pour faire rire, je suis pas là pour... sinon je serais essayiste ou romancière ou je ne sais pas, ou conférencière. Moi je suis humoriste, donc j'essaye de rire et des dérives et de la situation et de notre époque surtout. Voilà.
C'est très très réussi, on dit même que c'est sans doute votre meilleur spectacle, ça s'appelle Boys, 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 et donc prenez vos places pour décembre 2023 ou quelque part en France si vous arrivez encore à trouver quelques petites places.
Bien sûr, il y en aura.
Merci beaucoup Florence Foresti d'être venue nous voir ce matin, et même si on n'est pas très inquiet pour vous, on vous souhaite bonne chance pour cette série
Désordre
qui démarre donc ce soir à 21h sur Canal. À très bientôt.
Merci.
Allez, Culture Culture Média, ça continue sur Europe 1 après les infos de 10h. Notre invitée est une autre femme exceptionnelle, Delphine Horviller, vient nous présenter son dernier livre, Il n'y a pas de hasard, un livre dans lequel elle critique tous ceux, à gauche comme à droite, qui veulent figer notre identité. C'est absolument passionnant. Et puis dans Les Indispensables, Héloïse Goua viendra nous parler série avec une comédie anglaise très osée. Puis Stéphanie Loire convoquera la musique et le cinéma pour nous parler du compositeur phare du cinéma français, Philippe Sard. Sans oublier bien sûr Jean-Luc Lemoine pour sa session de rattrapage. À tout de suite.